Alors, Monsieur le Premier ministre, essayez de nous faire un état de la situation au jour d'aujourd'hui. Est-ce que il vous semble que les choses s'améliorent?
Oui, bien entendu, on est là à exactement 8 jours, enfin 7 jours du fat pour une date qui va rester dans les annales haïtiennes, ce mardi 12 janvier, où on a eu un terrible tremblement de terre en Haïti, plus de 7 sur l'échelle Richter, ça veut dire quelque chose de sérieux. Entre-temps, on a une cinquantaine de répliques et certaines répliques avaient des apparences de nouveaux tremblements de terre. Ce matin encore, on a eu une réplique qui était du niveau de 6 de Richter, je crois. Certaines maisons se sont encore écroulées, donc c'est une période extrêmement difficile pour Haïti. Cependant, après toute une période extrêmement compliquée de reprise en main de tout l'appareil de l'État, puisque comme vous le savez, le palais national s'est écroulé, le Parlement s'est écroulé, le palais de justice s'est écroulé, la plupart des ministères ont disparu et les communications étaient tombées. Donc ça a pris un certain temps pour l'administration publique et surtout au gouvernement pour se regrouper et prendre les choses en main. Mais dès la première nuit, nous étions à travers les rues en essayant de faire les évaluations, essayant de prendre contact avec nos partenaires principaux, les États-Unis, la ministère, la France. Vous savez que non seulement l'État haïtien lui-même a été durement frappé, mais également nos partenaires, puisque par exemple toute la direction de la MINUSTAH a été ensevelie sous les décombres. L'ambassadeur français a perdu aussi bien la résidence qu'une partie de l'ambassade. Donc même nos partenaires étaient dans une situation de sinistre. Il était très difficile de trouver de l'aide. Donc la coordination a été rendue compliquée dès le départ par le manque de communication et par le fait que tout le monde était touché, personne n'était dans une position où on pouvait réellement aider l'autre parce qu'on était bien. Ça a été la première période très compliquée. Mais très rapidement, malgré tout, grâce aux contacts qui ont été faits à travers les chancelleries, on a pu recevoir dans les 24 heures une aide massive venant de tous les pays. Les États-Unis, le Venezuela, Cuba, la France, la Chine.
Alors le problème qui apparaît aujourd'hui, c'est vraiment celui de la distribution, de la logistique.
Tout à fait. Nous n'avons pas. Le vrai problème maintenant, ce n'est pas la disponibilité de médicaments, la disponibilité de docteurs, la disponibilité d'eau ou d'aliments. C'est faire arriver toute cette aide vers ce que l'on a besoin. Il y a eu différents goulots d'étranglement. D'abord, le fait que le manque de communication n'a pas permis vraiment à la partie haïtienne de préciser ses besoins. Et devant l'urgence, tout le monde a envoyé un peu de tout. Et sans forcément informer de ce qu'elle envoyait. Donc il y avait un grand problème de triage de ce qui arrivait, ce qui est essentiel pour pouvoir faire la distribution. Le deuxième problème, c'est que l'aéroport lui-même est un petit aéroport et là, il était tellement massif qu'on est arrivé à une gestion extrêmement compliquée de l'aéroport lui-même. Il y a des avions qui sont arrivés avec de l'aide, qui ont dû tourner 2 ou 3 heures. Mais une fois qu'on a réussi à faire débarquer les choses sur l'aéroport, il y avait le problème des stockages. La plupart des lieux de stockage ont disparu en Haïti parce que, comme le reste, ils ont subi les conséquences du tremblement de terre. Donc on avait un problème de stockage qui aurait permis, qui a rendu lui-même difficile le triage de tout ce qui est arrivé. Enfin, il y avait le problème de la distribution, puisque comme il n'y a pas vraiment une coordination de tous les bailleurs avec le gouvernement haïtien, souvent il y a eu des distributions un peu au bonheur, la chance, un peu partout, qui font qu'il y a des zones qui ont trouvé 2 à 3 fois à manger par jour, parce que différents bailleurs passaient l'un derrière l'autre, et d'autres zones qui n'ont pas été touchées. Donc je dois dire quand même qu'après une semaine, on commence à accorder mieux nos violons. Vous savez sûrement que j'ai des rencontres de coordination chaque matin ici, qui est devenu un peu le centre du gouvernement, avec nos principaux partenaires, aussi bien diplomatiques que de coopération. Nous avons des rencontres régulières sectorielles pour l'alimentation, pour la logistique, avec nos partenaires également. Et ça commence à être mieux dans la rue. Mais jusqu'à présent, il y a toujours des zones qui n'ont pas été totalement touchées par l'aide. Mais ça s'améliore de jour en jour. Et je crois que dans la semaine, la situation sera au moins stabilisée sur les besoins basiques humanitaires.
Quand on écoute les Haïtiens, beaucoup disent: mais où est le gouvernement et que fait le président Préval? Personne ne l'entend. Pourquoi ne s'adresse-t-il pas à nous?
Moi, je ne comprends pas parce que je suis en permanence ici et je vois que j'ai l'impression, en tout cas, que je passe beaucoup de temps, certainement trop à mon avis, à parler à la presse. Je sais que c'est une phase nécessaire, justement, il faut communiquer. Je vois que le président Préval est dans la même situation. Nous donnons 3 ou 4 conférences de presse par semaine. Nous donnons des interviews, de 5 ou 6 interviews par jour à les radios nationales et internationales. Il a donné 2 messages déjà à la Nation. C'est peut-être la façon de le faire qui n'est pas qui ne correspond pas aux attentes de la population. Et souvent, ça n'a pas été annoncé, peut-être avec toute la solennité que les gens attendaient pour que ce soit vraiment un message formel à la nation, en leur donnant non seulement un message d'encouragement et des conseils ou des informations. Il en a pris conscience, il nous en a parlé, il nous a dit que peut-être il allait essayer de voir sur le format comment améliorer cet état de choses et travailler en coordination avec les radios. Mais n'oubliez pas aussi que pendant longtemps, les radios elles-mêmes ne fonctionnaient pas au niveau national. Donc, les problèmes de communication, nous en sommes conscients. Mais je crois qu'il y a, parce qu'il y a aussi des confusions. Les gens souvent confondent le fait qu'il n'y ait pas d'administration publique aujourd'hui et le fait qu'il n'y ait pas de gouvernement. Certains services que rendait l'administration publique ont disparu, mais le gouvernement est bien et bien là et il travaille.
On entend aussi des gens dire « mais il y a beaucoup trop d'Américains, c'est eux qui contrôlent l'aéroport, c'est eux qui prennent les décisions. On est en Haïti, nous sommes un pays indépendant et il y a une crainte de voir les États-Unis rester ici. »
Écoutez, au moment où moi j'ai demandé comme Premier ministre aux Américains de prendre charge à l'aéroport, c'est parce que nous n'avions plus d'aéroport sans les Américains, la cour de contrôle était tombée. Et nous n'avions pas d'autre solution à ce moment-là que de faire une sorte de bypass militaire. Ce que nous ont fait les Américains, nous avons accepté. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe en Haïti, je me rends compte que j'ai eu raison de prendre cette décision très rapidement. Parce que même si la tour de contrôle haïtienne fonctionnait, nous n'aurions certainement pas pu gérer ce qui est en... Ce sont les opérations militaires qu'il y a sur Haïti aujourd'hui. C'est des centaines d'avions qui arrivent sur la piste. C'est des milliers de tonnes de marchandises, de médicaments qui débarquent. C'est des gens... C'est une opération militaire sur l'aéroport. Et les aiguilleurs haïtiens et les opérateurs du tarmac n'auraient certainement pas été, quelles que soient leurs compétences, préparés à ce genre de situation.
Mais est-ce que vous avez l'assurance du gouvernement Obama que ces soldats, que ces Marines repartiront aux États-Unis quand vous voudrez ?
Il est clair pour nous, et dans toutes les discussions que j'ai eues, que le président a eues, aussi bien avec la secrétaire d'État Clinton, qui est venue ici avec nous, quand nous avons eu des réunions, que les réunions de suivi que j'ai eues avec les généraux qui sont en charge de l'opération en Haïti, les réunions que j'ai eues avec M. Mullet et les généraux qui sont en charge de la MINUSTAH, que les Américains ou d'autres bilatéraux qui sont actuellement ici, puisque le Canada est ici aussi avec des forces armées, sont ici à notre demande et qu'ils soient ici que pour nous assister dans nos besoins humanitaires ou de sécuritaires dans le cadre, par exemple, de transport de fonds. Mais ils sont également là pour nous aider. Ce ne sont pas tous des militaires qui sont venus éventuellement pour se battre. Il y a un gros contingent, c'est du génie militaire. Il y a un gros contingent, ce sont des médecins militaires. Il y a un gros contingent qui sont des logisticiens.
Mais vous comprenez cette inquiétude de la part de la population ?
Bon, je ne suis pas sûr que c'est une inquiétude de la population. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui est véhiculé par les médias. Globalement, quand on parle, nous, aux populations, quand nous parlons aux représentants on a essayé de rencontrer tous les secteurs pendant qu'on est ici. On a rencontré le Parlement pour leur parler de cette histoire, puisque nous connaissons la sensibilité qu'il y a en Haïti. Haïti est un pays qui a été occupé en plusieurs occasions. Donc nous avons parlé aux parlementaires, nous avons parlé aux organisations populaires, nous avons parlé aux commerçants, au secteur privé, et tout le monde s'est entendu avec nous pour dire l'aide de différentes armées dans un cadre contrôlé, concerté et dans le cadre d'un dialogue est la bienvenue en Haïti.
Dernière question, l'Union européenne, est-ce qu'elle vous semble à la hauteur en termes de financement, la France notamment? Est-ce que vous avez eu des contacts avec le président Sarkozy par exemple?
Je sais que le président Sarkozy lui-même a essayé de me parler, et surtout de parler au président à plusieurs reprises, le lendemain de la crise. Les problèmes de communication étant ce qu'ils étaient, et puis puisque nous n'avions pas encore reconstitué toute l'administration publique, ni le président ni moi-même, nous étions fourrés au moulin, donc ça a été difficile de communiquer directement. Mais à travers l'ambassadeur, à travers le secrétaire d'État à la coopération, M. Joandet, qui est rentré en Haïti, nous avons eu des communications directes. M. Kouchner, je lui ai parlé moi-même au téléphone. Le message de la France est très fort, un message d'aide pour l'humanitaire tout de suite et aussi un accompagnement dans le moyen et long terme pour la reconstruction d'Haïti. Et ce message a été très clairement donné aussi bien par la France que par l'Europe, l'Union européenne en général.
Vous allez lundi à Montréal, qu'est-ce que vous attendez? Que le monde vous donne énormément d'argent? Le problème aussi c'est qu'après il faut bien l'utiliser cet argent.
Et on n'attend pas que le monde nous donne de l'argent. On attend que le monde comprenne la problématique d'Haïti. On attend que le monde, avec nous, nous aide à reconstruire Haïti. Maintenant, combien ça va coûter? Comment ça va être fait? Nous sommes prêts à le discuter avec eux. Nous sommes prêts à discuter des priorités haïtiennes qui vont être transmises par le gouvernement avec nos partenaires pour voir qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut être fait au mieux pour le peuple haïtien et pour la région, puisque Haïti est un pays important dans la région. Si Haïti est mal, ça a des conséquences pour le reste de la région. Donc nous croyons que c'est pas seulement aider Haïti aujourd'hui, c'est aider la République dominicaine, c'est aider les Bahamas. Tous les problèmes économiques Haïti ont des implications dans la région. Donc nous sommes prêts à parler avec tous nos partenaires pour le plus rapidement possible, non seulement récupérer ce que nous avons perdu, mais peut-être être mieux demain matin, parce que tout ceci s'est passé dans un cadre d'un pays qui était essentiellement fragile, un pays pauvre, un pays qui se battait pour sortir de la misère et qui commençait enfin à avoir des perspectives à travers les investissements privés, à travers un nouveau cadre macroéconomique qui était accepté et respecté par la communauté internationale. Donc nous étions sur la bonne direction.
Quand on voit qu'aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans, après Katrina, 5 ans après, la ville n'est toujours pas reconstruite dans son entité, dans son entièreté, combien de temps il faudra pour reconstruire Haïti et Port-au-Prince ?
Bon, ce qui s'est passé dans notre pays donne un peu la mesure des défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Cependant, si vous êtes dans les rues, vous avez un peu circulé dans Port-au-Prince, le peuple haïtien est un peuple qui a une résilience extraordinaire. C'est un peuple extrêmement calme, travailleur et qui attend, qui veut qu'on le mette au travail. Moi, je mise sur le peuple haïtien qui a subi beaucoup de choses ces 50, 60 dernières années et qui n'a pas eu toujours forcément les leaders qu'il méritait pour pouvoir lui permettre de jouer le rôle qu'il doit jouer dans la région et peut-être dans le monde. Moi, je ne veux pas faire de comparaison avec ce qui s'est passé autre part. Je suis sûr que le peuple haïtien va réussir à s'en sortir et va sortir grandi de cette épreuve.
Merci infiniment. Merci.